longtemps dans l'entreprise, sont payés à l'ancienneté, donc sont repayés relativement plus cher que les jeunes. Et donc les patrons poussent à les mettre dehors pour soit les rembaucher sous une forme de travail précaire, au fond, des petits contrats, soit pour embaucher des jeunes qu'ils paient évidemment moins cher. Donc au total, ça donne des approches assez diversifiées de la vieillesse selon les pays, selon les conditions économiques et sociales des pays, selon l'idéologie aussi des pays.
Avec, je le note juste au passage, une colonne de citations de personnalités sur les vieux qui est assez croustillante, avec par exemple Alain Minc qui parle de son père de 102 ans qui coûte un prix exorbitant à la société. Renaud Lambert.
Oui, sur la question de l'essor de ce discours anti-vieux, pour des raisons économiques, on a observé que la crise de la dette notamment, conduisait à ce type de discours. On avait publié il y a quelques mois un portrait de cet expert qui passe beaucoup sur France Télévisions, François Langlais, que les auditeurs connaissent sûrement. Et lui s'est spécialisé dans un type de discours un peu particulier puisqu'il établit tout un tas de concessions sur les abus qui ont conduit à la crise, mais en même temps, il limite un petit peu les dégâts. Et donc, François Langlais fait partie de ces gens qui identifient un problème entre deux catégories de population, ceux qui ont profité et ceux qui subissent. Et on sent bien que lorsqu'il établit ce discours, il glisse dangereusement vers une formulation type lutte des classes. Mais il bifurque juste avant pour suggérer que la vraie opposition n'est pas entre des détenteurs de capital qui auraient bénéficié de la spéculation, toutes ces choses-là, et un autre groupe de la population. Non, c'est entre des jeunes qui nécessairement n'ont pas de patrimoine et des vieux qui nécessairement en ont. Et l'une des choses que me semble montrer assez efficacement le dossier, c'est que d'une certaine façon, vous avez beaucoup plus de points communs entre un avocat de 60 ans et un avocat de 30 ans qu'entre un ouvrier de 30 ans et un avocat de 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a d'autres facteurs qui rapprochent davantage les gens.
Qui va payer la crise? Je vous le demande, François Langlais.
TV5.
C'est jusqu'ici, il n'y a pas de débat, c'est vraiment les contribuables d'Europe.
2 octobre 2012.
En fait, c'est ça, finalement.
François Langlais.
Un peu la thèse de ce livre, c'est que.
Économiste.
En apparence, vous avez un conflit entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Puis vous creusez un petit peu, vous avez en réalité un conflit entre le contribuable, qu'on charge à mort, et le détenteur de capital, qui jusqu'ici a été préservé, et ça n'est pas normal. Et quand on creuse encore davantage, on se rend compte que sous cette fracture, il y a en fait la guerre des générations. Parce que les détenteurs de capitaux sont en grande majorité les plus de 50 ans, ceux qui ont eu le temps d'accumuler justement de l'épargne, notamment pour pouvoir acheter de la dette des pays européens, pas seulement, et que finalement, on a construit le sauvetage de l'euro autour d'une idée, et une idée seulement, c'est rembourser la dette. Alors que sauver l'euro et rembourser la dette, ça n'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, cette génération qui détient en majorité le capital, c'est en moyenne, oui. Il y a évidemment des retraités qui sont dans un état de dénuement problématique, eh bien, elle impose aux jeunes générations, notamment les tout jeunes, des taux de chômage complètement déments.
Suite du sommaire de ce numéro de juin du Monde Diplomatique avec un article sur l'Amérique latine et le Brésil. Et je me tourne vers un transfuge de là-bas si j'y suis, Renaud Lambert, que je vais devoir donc à cette occasion vous voyez. Renaud Lambert, cher monsieur, depuis que Chavez est mort, on pensait que ça y est, l'espoir d'un pôle de résistance au néolibéralisme en Amérique latine allait petit à petit s'émietter sous les coups de boutoir des marchés. Et vous nous dites non, mais c'est du côté du Brésil qu'il faut trouver un élément fédérateur. Est-ce que j'ai bien globalement compris?
Globalement, oui. J'ai l'impression que vous avez beaucoup lu la presse parce qu'effectivement, elle s'est employée à dire qu'avec la mort de Chavez, tout s'écroulait. C'est un petit peu la logique qui veut que des processus politiques comme celui qu'on a vu au Venezuela dépendent d'un seul homme.
Voilà, c'est l'individu et s'il n'est plus là, ça ne marche plus.
Exactement. Alors évidemment, nul ne suggérerait que le charisme, la personnalité d'Hugo Chavez n'a pas du tout pesé. Mais on s'est aperçu dans la période de transition pendant laquelle il n'était pas en mesure de gérer ses fonctions que le Venezuela avançait et que son parti qu'on estimait extrêmement divisé avait réussi à tenir tenir le cap. C'est un peu plus difficile, semble-t-il, maintenant, mais voilà. Donc après, pour ce qui est des perspectives qu'ouvre le Brésil, la question que je me suis posée, c'était les processus d'intégration que l'on a observés jusqu'à maintenant, dans quelle direction?